Muette, c'est le titre du premier roman de Pascal Beauregard publié aux éditions du Boréal qui est sorti il y a quelques mois. Pascal Beauregard est au bout du fil. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Et alors,
j'ai lu votre roman, un roman grave, un roman important, je crois bien. Parlez-nous un petit peu de vous avant d'aborder votre œuvre, de votre parcours. Vers quel âge l'écriture s'est imposée à vous? Dites-nous tout.
Ben, bonjour. Alors, si je dois tout dire, je pense pas qu'on aura assez de temps, mais je vais essayer de résumer ça en quelques secondes. Je me suis toujours intéressée aux mots, à la littérature. J'ai étudié, j'ai fait un bac en littérature comparée et en études allemandes, donc les langues aussi m'intéressent. Mais après ça, j'ai été travailler comme interprète en langue des signes, puisque mon parcours m'a amenée là, puisque mes parents sont sourds. Donc, je suis née de parents sourds et ma langue maternelle est la langue des signes. Donc, j'ai laissé la littérature de côté. J'ai travaillé comme interprète, mais comme je le dis dans le roman, un interprète, c'est quelqu'un qui passe et qui ne parle pas de lui, évidemment, qui prête sa voix aux autres, puis qui fait tout sauf parler de lui-même, finalement. Donc, c'est quelque chose qui... Ma parole m'a manqué, finalement, puis j'ai eu besoin de trouver ma parole, puis c'est pour ça que je me suis mise tranquillement à l'écriture. Tranquillement, parce que ça a été assez long, l'écriture du roman, mais j'y suis enfin arrivée. Bon.
Alors, la muette, c'est vous?
La muette, oui. C'est intéressant parce que ça part de moi, effectivement, mais j'ai essayé de comprendre aussi, parce qu'il y a un cycle de muette et de muet, finalement, dans mon histoire familiale, mais peut-être c'est peut-être une histoire qui est commune à plusieurs aussi, c'est-à-dire que il y a cette violence qui fait que notre parole est empêchée. Elle ne vient pas simplement du fait que moi, j'ai été muette parce que je devais prêter la parole à mes parents, mais mes parents eux-mêmes, comme sourds, ont été muets. Puis leurs propres parents, même s'ils n'ont rien à voir avec la surdité, de par leur histoire, ont été aussi muets à différentes façons.
Ouais.
Donc, c'est ce que j'essayais de retracer. Le fil du mutisme, oui.
Et Pascal, diriez-vous que votre roman est auto-fictionnel? Est-ce qu'il y a une part de Pascal dans le personnage de Catherine? Vous venez de donner la réponse, là. Mais est-ce que Pascal prend beaucoup de place dans ce roman-là, à titre fictionnel?
Oui, c'est intéressant. Je dirais oui et non. Donc, la source, elle est très, très proche de moi. Donc oui, on pourrait dire que c'est auto-fictionnel, mais en même temps, ça relève du roman parce que on est dans un espace presque de rêve et de fantasme. C'est peut-être la Pascal que j'aurais voulu être aussi, que je mets en œuvre, que j'essaie de mettre en lumière.
Dans le personnage de Catherine?
Dans le personnage de Catherine, c'est certainement mon alter ego, mais elle et moi, puis elle est autre en même temps.
Et comment vous le présentez quand on vous demande qu'est-ce que ça raconte? Parce que c'est une histoire de famille,
oui.
C'est une histoire sombre. On sent que les parents de Catherine ont, évidemment, on les dit sourds-muets, on ne dit plus ça maintenant, mais il y a des difficultés de communication.
Oui, des grandes difficultés de communication. Puis quand je présente le roman, c'est sûr qu'en une phrase succincte, je dis bon que ça raconte l'histoire d'une fille qui est née de parents sourds, puis qui tente de remonter le fil de l'histoire familiale qui est assez tordue.
Ouais.
Mais je trouvais ça important. Dans ce que vous dites, la part sombre là que j'ai voulu explorer, bon, il y a plusieurs aspects là qui sont sombres dans cette histoire familiale, mais il y a ce qui n'a pas été raconté dans l'espace littéraire, je pense, c'est la partie où les personnes sourdes, à l'époque de la Grande Noirceur, puis disons entre les années 40, c'est terminé peut-être à la fin des années 70, étaient automatiquement mises au banc de la société, puis étaient donc placées en institution. Puis dans ces institutions-là, au même titre que... les Autochtones ont vécu des sévices dans les pensionnats, bien, ça a été la même chose pour les personnes sourdes. À la différence près qu'on n'a pas tué l'enfant, mais on les a tués d'une certaine façon.
Vous connaissez bien le LSQ, la langue des signes québécoise, oui. Mais ce n'est pas le cas nécessairement de votre famille au grand complet.
Non.
Dans le roman, là.
Non, puis c'était le lot, dans la réalité, c'était aussi le lot de la plupart des personnes sourdes. Donc, par exemple, dans le roman, Pierrette, qui est la mère de Catherine, mm-hmm. qui est née sourde profonde, elle est née dans une famille où ses frères et sœurs étaient des personnes normales, entre guillemets, étaient entendantes, puis sa mère entendait aussi. Et donc, sa propre mère, lorsqu'elle a mis au monde une fille sourde, n'a pas cru bon d'apprendre la langue des signes, mais ce qui ne se faisait pas à cette époque-là, de toute façon, c'était pas à la mode, puis on faisait juste placer le sourd. On l'excluait de la famille. Donc, Pierrette était la seule à parler la langue des signes. Puis quand il a mis au monde Catherine, ben c'est Catherine qui a eu la responsabilité de parler pour sa mère puisqu'elle a transmis sa langue
oui.
à sa propre fille.
Et même si elle parlait le même langage, même si elle parle ce même langage, elles ne sont pas nécessairement toujours sur la même longueur d'onde. C'est pas
non,
toujours facile, la communication entre elles.
Oui, parce que, puis aussi, il faut dire que la mère, puis c'est ce que Catherine tente de comprendre au fil du roman, c'est que la mère est aux prises avec une certaine folie, une folie certaine, mais c'est que c'est difficile de savoir, est-ce que c'est simplement que Pierrette est sourde et frustrée, est-ce qu'elle mélange vraiment la réalité et la fiction, est-ce qu'elle vit dans un monde de suppositions puis d'interprétations infinies puisqu'elle mm-hmm. n'entend pas, puis qu'il lui manque toujours des informations, puis qu'elle doit toujours coudre puis tricoter toutes sortes d'histoires. Donc, c'est là que la communication devient difficile puisque effectivement, ils sont pas sur la même longueur d'onde puisqu'elles perçoivent pas le monde avec les mêmes sens.
Et Gigi, elle, c'est le contraire. La grand-mère, elle parle beaucoup, mais c'est pas nécessairement non plus toujours fluide, ce dont elle a dans le cœur.
La grand-mère, donc, de Catherine, qui est la mère de Pierrette, elle, oui, effectivement, c'est une personne qui entend et qui parle et qui parle et qui parle, sans doute pour ne rien dire aussi. Donc, elle aussi, elle souffre d'un certain mutisme.
Ouais.
Mais lorsqu'elle est devant sa fille et puis qu'elle parle puis qu'elle fait bouger ses lèvres comme ça, c'est sûr que sa fille, qui est sourde, doit sans cesse, c'est une violence aussi qu'elle lui impose parce qu'elle doit sans cesse essayer de deviner ce que sa mère dit. Puis c'est un cycle comme ça de cette transmission de parole vide à parole vide à parole vide que Catherine a tenté de défaire ou du moins de stopper.
Et on peut lire à ma mère et à ma grand-mère pour qu'elles se parlent enfin. Et est-ce qu'elles se sont parlé? Est-ce qu'elles se parlent finalement?
Je pense qu'elles se parlent dans l'espace du rêve et dans l'espace du livre. Parce que dans la réalité, ma grand-mère, elle est décédée. Puis ma mère, elle est toujours vivante. Donc, elles ne se sont jamais véritablement parlé. Mais au fond, peut-être que c'est ce que j'ai fini par comprendre au fil du roman, à la fin du roman, c'est que peut-être qu'elles étaient plus proches l'une de l'autre que Catherine ne le pensait. Parce que c'est pas parce qu'on ne se parle pas qu'on ne se parle pas non plus, finalement.
C'est vrai. Donc, il y a différentes voilà. façons de se parler.
Exactement.
Ouais. Et est-ce que votre mère, vous disiez qu'elle est toujours vivante, et votre père, est-ce qu'il est toujours vivant?
Oui, mon père oui. est toujours vivant.
Est-ce que vos
oui.
parents l'ont lu, muette?
C'est une bonne question. Ils l'ont lu à leur façon, c'est-à-dire qu'ils ont pris connaissance de l'existence du livre, mais comme ce sont des personnes sourdes qui ont été élevées en institution dans les années 50, disons que le niveau d'éducation n'a pas été très, très élevé, puis donc, comme la plupart des personnes sourdes de leur âge, de leur génération, moins maintenant parce que l'éducation est de plus en plus accessible de par les services d'interprétation là, qu'il n'y avait pas dans le temps, ce sont donc, c'est-à-dire que mes parents sont analphabètes ou analphabètes fonctionnels. En tout cas, la fiction ne leur est pas accessible, surtout pas, le roman, c'est trop, je pense que c'est trop abstrait, peut-être. Mm-hmm. Donc,
mais ils ont bien compris que vous aviez publié un livre dans lequel ils seraient présents.
Oui et non. C'est-à-dire qu'ils ont compris, mais même l'idée de fiction pour eux, je pense que c'est quelque chose de très abstrait qui est difficile encore à démêler. Donc, je leur ai dit que c'était une histoire qui s'inspirait de mon histoire personnelle, mais que les noms étaient changés, que c'était donc devenu une autre histoire.
Comment ils ont réagi?
Ils ont quand même bien réagi. Ma mère, elle était, elle a trouvé que c'était un beau livre. Elle a trouvé la page couverture belle.
L'objet.
Puis, pense qu'elle était fière de moi, l'objet exact. Ouais. Oui, elle a trouvé l'objet, puis elle me retrouvait là-dedans. Elle me dit, t'as toujours aimé écrire des histoires. Donc, elle a compris une partie de moi. Puis je pense que sans avoir à lire le livre, je pense qu'ils peuvent quand même déduire. Les choses n'ont pas été dites de façon frontale, mais ils peuvent quand même comprendre qu'il y a peut-être une part de souffrance ou de secrets familiaux que j'ai tenté d'aborder à travers ce livre.
Et Pascal Beauregard, ça me faisait penser un peu aussi, c'est pas du tout la même histoire, mais c'est quand même une situation semblable, une famille avec des parents sourds et un des enfants dans la famille Bélier qui parle et qui chante aussi. Est-ce que vous l'avez vu, ce film-là?
Oui, je l'ai vu. Je me suis beaucoup retrouvée dans ce film. Effectivement, ça ressemblait beaucoup à mon histoire familiale. C'est-à-dire, ça ressemblait à mon histoire familiale, mais si on regarde au premier plan, oui, ce sont deux parents avec une fille sourde. Puis, mais dans la famille Bélier, malgré tout, l'histoire est quand même plus bon enfant, mm-hmm. ou part de naïveté,
ah, oui.
C'est plus joyeux. Alors que dans mon histoire, puis l'histoire que j'ai voulu transposer dans un roman, je pense qu'il y avait plus, il y avait aussi l'idée du mutisme, de la folie, le passé en institution, la violence qui a été vécue par le cycle des violences aussi, qui a été transmis de génération en génération, qu'il s'agisse de personnes sourdes ou non, parce que ça va encore plus loin. Le grand-père, par exemple, de Catherine, qui est revenu de la guerre muet, il n'était pas sourd, loin d'être sourd, mais pourtant il était muet quand même. Donc, toutes ces formes de mutisme, peut-être qu'ils sont moins exploitées dans La famille Bélier, qui est un très beau film.
Oui, très beau film. On n'est pas du tout dans ce même univers. On n'est pas dans les bons sentiments quand on lit muette.
Exact.
Et Pascal, oui?
Il y a quand même la part de comique aussi qu'on retrouve,
oui?
dans La famille Bélier.
Oui, il y a de l'humour. L'humour est important pour mieux prendre la chose et mieux respirer.
Oui.
Est-ce qu'on se sent coupable d'être entendant et d'avoir des parents sourds?
Oui. Pour ma part, oui. Puis c'est ça, en fait, le roman, l'écriture du roman aussi, c'est être transporté, puis c'est d'accepter d'être transporté par le plaisir d'entendre et de jouer avec les mots. Donc, c'est une culpabilité qu'il faut apprivoiser. Au même titre que j'imagine n'importe quelle personne qui vient d'une famille où il y a un membre de la famille qui est handicapé, peut-être même dans la fratrie, ou en tout cas, ça revient toujours, c'est sûr, on se dit pourquoi moi, ou pourquoi lui, ou pourquoi elle. Puis c'est cette chance que j'ai, c'est la chance du survivant, peut-être la culpabilité du survivant, en quelque sorte, de celui qui, en tout cas, qui a la chance d'avoir tous ses sens. Puis pour moi, c'est important de transformer cette culpabilité, puis en fait, cette culpabilité devient une responsabilité, mais une belle responsabilité, c'est-à-dire une responsabilité qui nous pousse à agir. Puis d'amener les autres avec nous aussi, de dire, ben, ce livre-là, je l'écris pour ceux qui ne peuvent pas parler ou qui ne peuvent pas entendre.
Ah, mais c'était ma prochaine question. À qui était destiné votre roman?
Donc, oui, peut-être qu'elle est, c'est-à-dire que dans le roman, la narratrice amène avec elle ceux qui ne peuvent entendre, en même temps qu'elle tente de s'en séparer, là, c'est assez paradoxal. Mais peut-être aussi que ce livre s'adresse surtout à ceux qui entendent et qui n'ont pas vu, et qui ne voient pas encore, qui n'ont pas vu peut-être la petite fille qui devait se déprendre avec tout ça, ou à tous ces adultes qui entendaient, puis qui ont quand même permis que la petite soit prise à interpréter pour sa mère, par exemple, à tous les gens qui n'ont pas connu, qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas ce type de situation, pour que ça puisse être révélé au grand jour.
Et est-ce que ça a été difficile pour vous d'être publié parce que c'était votre premier roman, on ne vous connaissait pas? Est-ce que vous avez envoyé votre manuscrit aux éditions Boréal seulement? Comment ça s'est passé, la publication?
J'ai été chanceuse, en fait. C'est un petit secret que je vous dis, je ne me vante pas de ça normalement, mais franchement, j'ai été bien chanceuse parce que non, j'avais aucun contact dans le réseau littéraire. Puis j'ai fait un certificat en création littéraire, ça fait environ 7-8 ans de ça. Oui, il y a des profs qui m'avaient encouragée, mais j'avais vraiment aucun lien dans le réseau. Puis donc, j'ai envoyé mon manuscrit à une dizaine de maisons d'édition. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir choisir entre trois maisons d'édition qui ont bien voulu publier mon manuscrit. Donc, ça m'a donné quand même une bonne... une bonne poussée, puis oui, ça m'a vraiment encouragée à poursuivre.
Mais c'est ça, je me demandais si vous travaillez actuellement sur quelque chose, un autre projet littéraire.
Oui, c'est vraiment je suis en période de cueillette d'informations et de rêveries. J'ai rempli des carnets. Donc, il y a une lutte intérieure qui se trame. Je ne sais pas par quel bout je vais prendre la chose, mais ça se travaille tranquillement.
Bon, il y a un début de quelque chose.
Il y a un début de quelque chose.
Oui. Et le roman est sorti, c'est en septembre dernier, donc il y a 4 mois. Est-ce que vous avez eu des réactions de la part du public? J'imagine que vous avez visité les salons du livre.
Oui. Oui, très intéressant. Mais j'ai eu aussi des réactions de gens qui m'ont écrit ou de lecteurs même inconnus, ce qui est toujours c'est ce qu'on s'attend. Il y a des gens qu'on connaît, mais quand il y a un lecteur qu'on ne connaissait pas, c'est la première fois que je vis ça quand même, qui m'écrit pour me dire « Ah, ça m'a touché, ça m'a bouleversé. » J'ai eu aussi des réactions de gens. Je pense que les réactions qui m'ont le plus touché, par contre, c'est les réactions des gens de ma famille proche, c'est-à-dire mes oncles, mes tantes, qui m'ont dit « Ok, tu nous as fait voir des choses. Ce que tu vivais, on ne le savait pas. » Puis ça a permis de comprendre les mécanismes les mécanismes familiaux. Puis oui, petit train va loin, là, ça fait son effet, ça fait tranquillement, je pense qu'on peut, je ne sais pas si on peut changer les choses, mais changer le regard, un regard à la fois en tout cas.
Et quand je regarde la page couverture, ça en dit long, hein? Comment vous la décrivez?
C'est intéressant parce que je pense que l'interprétation qu'on peut en faire change chaque jour.
Okay.
Varie, exactement. Ouais. Puis à chaque jour, donc je me dis une nouvelle chose. Mais si on peut la décrire, là, on voit une jeune femme qui a un bandeau, une espèce de foulard qui lui bloque la vue, mm-hmm. mais en même temps qui est sur ses oreilles aussi, puis qui tire loin, loin derrière. Puis c'est drôle, j'ai une amie qui tire aux cartes, qui tire au tarot, puis elle me disait « Ah, ça me fait penser, je pourrais pas vous dire laquelle, quel denier ou quelle carte. » Mais elle me disait « Tu sais, il y a une carte où on dit, je me souviens pas du nom, mais elle me dit, c'est une carte où on dit « T'as le pouvoir d'agir. » C'est sur le pouvoir d'agir, parce qu'on pense qu'on a les yeux, le regard voilé, puis on pense qu'on est coincé, mais finalement, t'as qu'à détourner la tête ou à te déprendre du foulard. T'as juste à faire un mouvement. Puis le foulard est pas attaché en arrière, là. Le foulard est juste posé comme ça sur le regard.
Il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir, mais ça dépend comment on le voit, c'est ça. Puis ça peut être aussi, donc c'est l'aveuglement.
Oui. Alors, Pascal Beauregard, il faut se laisser ici, mais je rappelle aux gens que vous avez écrit Muette et ça vaut le détour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Un grand merci. Au revoir.